Vous écoutez
RMC.
RMC.
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Et nous voilà de retour. Il est 6h08 sur RMC en ce 20 juin 2020. Quel plaisir, sincèrement, de vous retrouver. Nous allons passer une partie de ce week-end ensemble. Vous le savez, hein, samedi, dimanche, 6h, 10h, le week-end des experts. Demain, 6-7 de quoi je me mail. 3 heures d'auto ensuite de 7 à 10 avec Jean-Luc Moreau. Et puis aujourd'hui, tout à l'heure, la vie numérique avec Raphaël Grabli. Ça sera entre 9h et 10h. On va s'intéresser un peu à la stratégie numérique du géant de la SNCF. Et vous verrez qu'il y a plein de projets impressionnants qui arrivent. On recevra le monsieur des nouvelles technologies de la SNCF. On évoquera la chaleur qui se prépare aussi avec Christian Riquia tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien préparer la canicule qui arrive dans quelques jours? D'ailleurs,
son jardin.
Voilà, ça c'est pour les végétaux. Mais pour les humains, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera tout à l'heure entre 8 et 9. La maison avec Christian PC. Eh bien alors là, on évoquera l'immobilier, notamment le marché ancien. Est-ce le moment, tiens, d'acheter, par exemple, un appartement dans un immeuble ancien? Est-ce que le confinement a changé des choses sur le marché de l'immobilier? Là encore, on verra tout ça en détail avec Christian PC et nos invités. Mais pour débuter, 6-7, c'est le jardin. Et c'est avec Patrick Mulan. Bonjour monsieur Miu, j'essaie de vous imiter.
Bonjour monsieur François, bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Et très bienvenue au jardin. Oui, les jardins sont très très bien en ce moment. Il faut en profiter parce qu'on va avoir une vague de chaleur et ça va pas leur faire plaisir.
Aïe aïe aïe, là il va falloir sortir le robinet, hein, je pense.
La douche.
Et oui.
C'est vrai que je suis adepte de la douche pour les végétaux.
Tout à fait. On en parlera tranquillement tout à l'heure, hein, avec la météo du jardinier. Vous nous expliquerez ce qu'il faut faire lorsqu'il y a comme ça une canicule qui se dessine. Au menu de 7 heures dédié au jardin, tout à l'heure, vous saurez tout sur les nénuphars, leur histoire, l'utilisation, la plantation, les soins. Une plante étonnante, le nénuphar.
Magnifique surtout, oui. Une plante qui fait partie des végétaux les plus anciens.
En plus, les plus anciennes.
Oui.
On évoquera aussi toutes les taches sur les feuilles. Là, c'est la fiesta en ce moment, hein. Même dans mon jardin, moi, là, il y a des taches partout. Il va falloir que vous nous expliquiez ce dont il s'agit.
Docteur
Miu Miu.
Je peux vous expliquer de quoi il s'agit. Pour soigner, c'est plus compliqué.
C'est plus compliqué, oui, bien sûr. On a de moins en moins de produits à notre disposition pour soigner tout ça.
C'est tout simplement comme si on avait... dit dans les pharmacies, on enlève 80% des médicaments qui existent.
Exactement, il vous reste un petit peu de Doliprane et puis basta. Et puis les coups de cœur de Patrick pour cette semaine, la météo du jardinier. Et en priorité, vos questions jardin, vous le savez, on est en direct tout au long de ce week-end. C'est ça la force de ce week-end des experts, c'est qu'à tout moment, vous pouvez joindre nos spécialistes et poser vos questions. Le 32-16, une question jardin dès maintenant, 32-16, ou bien l'appli RMC sur votre smartphone, direct studio. Vous laissez votre question avec votre numéro de téléphone. On peut vous rappeler dans les minutes qui viennent. Ça nous arrive souvent, hein, donc n'hésitez pas. C'est parti, bienvenue, 6h11 et on attaque avec Nadine. Bonjour Nadine.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour Nadine, bienvenue.
Nadine est bien réveillée déjà, ça fait plaisir.
Oui.
Bon, vous les êtes dans le Var, Nadine.
Tout à fait, oui.
Vous savez que Patrick va se rapprocher de vous dans la semaine.
Ah, oui. Bah écoutez, qu'ils viennent, c'est un département merveilleux.
Ah oui, je connais bien, j'ai de la famille par là. Non mais là, je ne vais pas aller jusque dans le Var, je vais aller dans les Lavandes.
Dans les Lavandes, à Manosque.
Ah. Voilà.
Ah oui, c'est pas loin.
C'est pas loin, on est d'accord, hein.
Non.
C'est moins loin que Paris-Manosque, quand même.
Non, et puis c'est très très beau aussi là-haut.
Très bien. Alors, Nadine, qu'est-ce qui vous amène ce matin?
Eh bien, écoutez, j'ai des soucis avec mes bambous, des bambous que j'ai depuis 3 ans et qui poussaient tout à fait normalement et qui avaient l'air de bien redémarrer là au printemps avec des jolies pousses vertes à la base. Et puis j'ai ces grandes tiges que je découvre depuis environ 15 jours. Qui semble dénudé et je ne sais pas ce qui se passe. J'en ai parlé à un voisin qui a des bambous aussi, qui m'a dit de regarder si éventuellement, la nuit, il n'y aurait pas des chenilles. Alors j'ai observé, j'ai regardé, j'ai rien vu. Il n'y a pas de taches sur les autres feuilles, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a rien. Il n'y a rien qui semble...
Moi, ma question est la suivante.
Oui.
Vous avez une chute des feuilles?
Non, je ne vois pas de feuilles par terre. Non.
Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est simplement les tiges qui ne sont pas feuillées?
Voilà. voilà, qui apparemment étaient feuillus et qui perdent leurs feuilles, mais je ne sais pas.
Non, mais elles les perdent.
Mais je suppose, puisqu'il n'y en a plus, mais je ne les vois pas par terre. C'est pourquoi je pensais que c'était peut-être un animal qui venait se...
Qui brouterait les bambous.
Je ne sais pas. Ouais. Alors, j'ai pris des photos, mais elles ne sont pas très, 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 très belles. Mais...
Je les ai pas vus, mais franchement, alors déjà il faut savoir une chose, le bambou est une des plantes les moins attaquées sur le plan parasitaire.
Oui.
Bon, en revanche, c'est vrai que c'est une plante qui est comestible pour les herbivores, notamment quand c'est très jeune. Donc ça peut être l'effet d'un herbivore, mais bon, par exemple, je pense pas que dans votre jardin, enfin j'en sais rien, mais il y a pas de chevreuil qui se balade la nuit.
On a eu des biches qui se sont attaquées au cyprès.
Ah oui.
En grattant les troncs.
Oui, bien sûr. Oui.
Et bon, à une hauteur telle que ça ne pouvait pas être des sangliers. Donc on en a.
Non, parce que en fait, il faut, quand on a un problème comme cela, on va dire que pour que ça soit un parasite.
Oui.
Il faut qu'il y ait des symptômes qui soient visibles. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des insectes qui rongent des feuilles, mais il en reste toujours des bouts.
Voilà.
Vous avez des maladies qui, on va en parler tout à l'heure, qui tâchent, etc. Donc là, on a des symptômes et on peut avoir un symptôme. Dans votre cas, vous n'avez rien du tout. Enfin, du moins, il se passe des choses mystérieuses.
Oui.
Donc, c'est obligatoirement une consommation. C'est-à-dire que ça peut pas disparaître comme par enchantement. Parce que soit il y aurait une chute des feuilles. Parce qu'il pourrait y avoir, dans le cas où les bambous se trouveraient dans des conditions écologiques défavorables, donc par exemple trop secs, par exemple dans un climat qui leur convienne pas, etc., vous auriez une chute des feuilles.
Oui.
Donc là, les feuilles encore vertes, tout ça, elles tomberaient. Et là, on se dirait, tiens, il y a un problème. Mais là, vous avez une disparition de ces feuilles. Donc s'il y a disparition de ces feuilles, il y a forcément consommation. Maintenant, il faut savoir quel est l'animal, parce que je pense que 99% c'est un animal, qui va consommer les feuilles de vos bambous pendant que vous dormez, certainement, puisque, a priori, il n'est pas là présent quand vous y êtes, vous aussi. Donc, en nocturne, je vous dis, bon, souvent, les dégâts qui sont faits comme ça sur des plantes un peu tendres, c'est souvent les chevreuils. Alors, surtout, c'est sur des tiges de bambou qui ont quelle hauteur ?
2-3 mètres.
À 2-3 mètres, un chevreuil, ça peut pas manger à 2-3 mètres. Dans ces cas, c'est une girafe.
Facilement
des girafes dans le Var, c'est plus rare quand même.
Oui, hein, oui, non, mais bien 2,50 mètres. Oui, 3 mètres, parce qu'il y a 3 ans que je les ai. Ils sont beaux, ils sont hauts. Je les ai mis dans des bacs en pierre, devant justement pour cacher des piliers. Pour qu'ils montent et qu'ils cachent des piliers. Ce qu'ils font très bien d'ailleurs. Mais voilà, j'ai maintenant ces espèces de tiges nues. Alors pas toutes, hein. J'ai le bouquet de bambou qui est, par moment, bon, il y a des belles tiges qui sont bien fournies. Et puis, de plus en plus de tiges qui se dénudent.
Alors il faut savoir aussi quand même que les bambous, en vieillissant, grossissent et que la tige, avant de faire les premières feuilles, il faut quand même qu'elle monte à la hauteur qui est définie par la plante, et le feuillage va s'épanouir après. C'est-à-dire que vous avez une sorte de spathe qui enveloppe la pointe de la tige, et ça monte comme ça, puis après, hop, vous avez les feuilles qui apparaissent. Donc, il faudra peut-être faire un peu preuve de patience, regarder s'il n'y a pas, justement, cette formation de feuilles qui se fait petit à petit. Mais en tous les cas, sinon, bon, appel à tous les auditeurs qui connaissent le mystère des feuilles de bambou.
Le mystère du bambou.
Parce que, franchement, là, j'avoue que je suis dans le noir.
Bon, 6h17, Nadine, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne journée. Et tout de suite, c'est notre conseil de Patrick.
Je vais vous donner un dernier conseil avant que vous partiez.
RMC.
L'astuce jardin de Miu Miu.
J'attends ton conseil.
Et puis vous restez là parce que dans un instant, je vais vous offrir une piscine.
Oh.
Encore une fois. Eh oui. C'est bien ça, hein.
Surtout avec la température qui s'annonce, ça va être génial.
Ça va être pas mal. On va tout vous expliquer dans une minute. Patrick, notre conseil de l'expert cette semaine, c'est les taches sur les feuilles, donc les symptômes, les raisons et les soins. Première question. Est-ce que la présence de taches sur un feuillage doit inquiéter le jardinier ?
Bah oui, parce qu'a priori, quand vous voyez des taches, c'est un symptôme de quelque chose qui se passe. C'est pas le mystère de Nadine dont les feuilles disparaissent. Là, vous avez quelque chose qui vous indique qu'il y a quelque chose
c'est
qui
va. C'est un symptôme, en fait.
Donc après, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Bah, écoutez, ça dépend de l'importance, parce que remettez-vous à la place de la plante. Si la plante était vous, quand vous avez deux, trois petits boutons qui poussent sur le nez, vous n'allez pas aux urgences de l'hôpital.
Non, tout de suite, non.
Donc, le problème, c'est de se dire, si j'ai trois, quatre feuilles comme ça qui se tachent et puis qui tombent, bon, c'est qu'il y a un petit truc, mais c'est pas grave. En revanche, à partir du moment où vous avez un symptôme qui est très visible, c'est-à-dire sur une partie au moins d'un quart du feuillage, sur le volume du feuillage, là, il faut commencer à s'inquiéter et se poser la question de savoir aussi la couleur et aussi la forme de ces taches.
Alors justement, qu'est-ce qu'indiquent ces différentes formes de taches ?
Alors, vous pouvez avoir des brûlures, vous pouvez avoir des nécroses, vous pouvez avoir une attaque parasitaire, qu'elle soit cryptogamique, c'est-à-dire de champignons, bactérienne ou virale. Donc tout cela, il faut regarder la forme de la tache.
D'accord. On va commencer peut-être par les brûlures. À quoi peuvent-elles être dues, ces brûlures ?
Alors, la brûlure, c'est une partie de la feuille qui prend la texture du papier, un peu. Vous voyez, ça se dessèche. Alors, parfois, de façon très, très localisée. Or, ça peut être simplement un coup de soleil brutal. Attention aussi, par exemple, aux excès d'engrais. Surtout sur les plantes en pot. Donc, en ce moment, on nourrit ces végétaux, mais en respectant scrupuleusement les doses qui sont indiqué sur les boîtages, sachant que, personnellement, je considère que ce sont toujours des maximales qui sont données par les fabricants. Là, je parle d'engrais, je ne parle pas de produits phytosanitaires. En engrais, quand on vous dit, par exemple, de mettre un bouchon pour un litre toutes les semaines,
c'est un peu too much.
Ça peut être un peu too much.
D'accord.
Voilà. Bon, vous savez, moi, ma préconisation est de mettre plutôt un bouchon d'engrais dans un gros arrosoir et d'utiliser ça tout le temps. Dans ces cas-là, vous avez une fertilisation très régulière et sans
avec
brutalité.
Une très légère dose.
Pas de risque, donc, justement, de brûlure. La brûlure, elle peut venir aussi du fait que vous avez utilisé de la matière organique non décomposée au moment de la plantation. Par exemple, du fumier frais, ça peut faire des choses comme ça. Après, les maladies cryptogamiques qui font des brûlures, il y en a. Par exemple, sur les oignons et les échalotes, vous avez un botrytis, donc qui est du genre de la pourriture grise, qui produit donc des dégâts totalement irréversibles et qui sont dus souvent, alors encore une fois, un peu un excès d'engrais. Quand vous mettez de l'engrais trop azoté, vous avez des problèmes. Et puis surtout, j'insiste, parce que ça, c'est la grande mode du moment, acheter des plants sélectionnés. Le fait de faire soi-même ces plants, de réutiliser ce qu'on a récolté pour les ressemer, génère facilement des nouvelles maladies. Et puis sur les fraisiers, vous avez aussi des petites taches rouge-violacées qui sont brûlées au milieu et qui, elles, s'étendent. Alors ça aussi, il faut savoir, une brûlure due à un produit, par exemple, ne va pas se développer, elle va faire une tache, mais cette tache-là, elle va rester de cette forme-là. Quand vous avez une attaque cryptogamique, vous avez une tache, puis deux, puis trois, puis quatre, et puis partout, et donc là, on sait bien c'est un être vivant qui est en train d'être sur votre plante. Voilà,
d'accord.
Bien sûr.
Alors parfois, on voit des feuilles qui ont des grosses taches, qui brunissent, et qui attaquent toute la feuille. Là, est-ce qu'il faut s'inquiéter ?
Alors là, surtout si les plantes sont en pot, il faut énormément s'inquiéter parce que c'est pas d'origine d'un bio-agresseur, c'est simplement une grosse erreur de culture. Soit vous arrosez trop, soit vous avez pas rempoté suffisamment récemment et la terre s'est compactée, ce qui a entraîné une asphyxie des racines et qui là, effectivement, une fois qu'elles sont asphyxiées, meurent.
Mais oui.
Et là, vous avez des champignons qui se développent et la plante est en péril. Donc il faut rapidement, quand on a ça, eh bien, dépoter la plante. Vous pouvez le faire en toute saison, il n'y a pas de problème. Bien enlever tout le vieux terreau, etc., qui est bien compacté.
Les racines pourries.
Retailler les racines quand elles sont abîmées et remettre en place. Alors, bien sûr, une fois que vous avez fait ce travail-là, il faut que la plante ne manque pas d'eau pendant assez longtemps, mais pour pas autant qu'elle baigne. Parce que quand les plantes baignent, c'est comme si on vous met la tête sous l'eau.
Oui. Eh bien, au bout d'un moment, on est fatigué. Ça marche moins bien. Hein. Vous parliez des fraisiers il y a un instant. Alors, on voit ces taches plus ou moins rougeâtres sur les fraisiers. Elles sont dues à quoi?
Alors ça, c'est très fréquent. C'est plusieurs champignons. Il y en a quatre champignons différents, mais qui font exactement les mêmes symptômes. On appelle ça la maladie des taches pourpres. Donc ça, c'est une chose importante. Il faut tout retirer de ce qui est abîmé. Ne pas laisser les feuilles mortes. Bon, le fraisier est persistant, mais il y a des feuilles toujours qui meurent sur le sol. Traiter pendant la période hivernale une fois à la bouillie bordelaise et puis recommencer au printemps juste avant la première floraison. Et puis bien entendu, si la plante est vraiment très très atteinte, et bien le mieux c'est de l'arracher et de la remplacer par des plants sélectionnés.
Patrick, on va s'attaquer quand même aux rosiers parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de taches sur ces rosiers ou même des arbres fruitiers, des haricots. On voit des petites taches oranges. À quoi est-ce dû?
Alors en ce moment, il y en a pas mal, c'est la rouille, c'est une maladie cryptogamique aussi. Alors les petites taches oranges, elles sont principalement à la face inférieure du feuillage. Mais quand la maladie est bien déclarée, elle traverse complètement le limbe du feuillage. Et là, vous voyez une sorte de criblure.
Comme un trou.
C'est comme si la plante avait la petite vérole, si vous voulez.
Ah ouais.
Et là, c'est vraiment une maladie qui peut défolier rapidement l'ensemble de la plante. Donc on fait plutôt une bouillie bordelaise lorsque les conditions sont favorables, c'est-à-dire qu'il faut, au printemps, lorsque c'est très humide, lorsqu'il y a vraiment une température pas très élevée, eh bien là, on peut faire une bouillie bordelaise en prévention. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on n'a strictement aucun fongicide curatif utilisable.
Autre mal sur les rosiers, c'est ces grosses taches noires, vous savez, qui sont circulaires, qui font après jaunir le feuillage. Alors là, est-ce que c'est grave, docteur ?
Ça peut être très grave. Vous avez des variétés de rosiers qui... déjà en cette saison, n'ont plus de feuilles. Donc il est bien évident que la photosynthèse ne se faisant pas, la plante est considérablement affaiblie du fait de cette maladie qui s'appelle...
Elle peut mourir sans feuilles ou pas?
Au bout de plusieurs années, si on ne voit jamais rien, parce qu'en fait, elle ne pourra pas faire son cycle complet.
Bien sûr.
Donc, vous avez aussi là la bouillie bordelaise qui fait son effet avant l'apparition des symptômes. Et puis surtout, en matière de rosier... utilisez plutôt des variétés récentes qui sont réputées résistantes. Et il y en a une que je vous conseille de toute façon qui est totalement indemne de ce qu'on appelle le Marsonia, cette maladie des taches noires du rosier, qui s'appelle Emera. C'est un rosier plutôt arbustif, plutôt étalé, de couleur magenta, mais qui n'est jamais malade.
Et il n'a pas peur de cette attaque.
Non, mais alors, franchement, on peut dire... qu'encore aujourd'hui, c'est le seul qui, à 100%, est résistant. Maintenant, les variétés nouvelles sont de plus en plus résistantes puisque c'est le premier critère de sélection des obtenteurs de roses. Aujourd'hui, résistance aux maladies.
Patrick, il est 6h25. On va revenir dans un instant. Vous allez tout nous dire sur les nénuphars. Mais auparavant, on va retrouver la météo et surtout le cadeau que je vais vous offrir. Je vous offre ce matin, écoutez bien, accrochez-vous, une piscine Summer Waves, une piscine donc tubulaire, rectangulaire de 4 mètres sur 2. Voilà, c'est un petit bassin sympa, hein. Attendez, elle sera parfaite dans votre jardin pendant ces magnifiques journées d'été. Et pour remporter donc cette piscine avec la chaleur qui arrive dans les jours qui viennent, c'est simple, vous nous envoyez le mot jardin par SMS, toujours pareil, hein, jardin par SMS au 732-16 et vous participerez au tirage au sort. Jardin par SMS au 732-16. Bien évidemment, je vous souhaite bonne chance et on revient dans un instant avec Patrick Miolan, il est 6h26.
Votre jardin sur RMC avec Mano Mano.
RMC.
Jusqu'à 7h.
Votre jardin, François Sorel.
Patrick Miolan.
Nénu dans la grand mare, je suis nénu, le nénuphar.
Ouh, oula,
ça va le trouver ça.
Ah ouais. Une chanson, un petit peu planante comme ça là. Hein. Kevin, alors il faut que tu nous racontes quand même. Ça vient d'où ce chef-d'œuvre musical? On sait ou pas? Ça vient. Il s'appelle Reynald Hallois. Voilà. Ça vous plaît ou pas? On peut vous trouver l'enregistrement original, hein, si vous voulez, Patrick. Parce que je vous sens impressionné. Tiens, des petits messages sur Direct Studio. Vous êtes très nombreux à nous faire un petit coucou ce matin. On vous embrasse et merci d'être là et de penser à nous. Alors, on y va. 6h30, nous allons parler des nénuphars. Qu'appelle-t-on, Patrick, un nénuphar? Tiens, pour commencer. Ah,
les nénuphars, ce sont les plantes du genre Nymphaea. Il y en a 44 espèces. Ce sont des plantes vivaces, donc elles vivent plusieurs années, aquatiques. Et il ne faut pas les confondre avec le genre nuphar, qui est improprement appelé en France le nénuphar jaune. Le nuphar lutea, c'est une plante qui peut ressembler au niveau du feuillage, puisque vous avez ces feuilles plates posées sur la surface de l'eau, mais qui fait une fleur très érigée, assez petite, comme un bouton d'or, si vous voulez, aquatique. Donc, le nénuphar n'est pas un nénuphar, même si parfois il y en a qui disent que c'est le nénuphar jaune. Alors, des nénuphars, des nymphéas, il y en a un petit peu dans tous les pays. On en a en France, des sauvages, mais il y en a également dans les pays tropicaux. Oui. Et ceux des pays tropicaux, parfois, ils sont nocturnes.
Ah oui.
Les fleurs s'épanouissent la nuit.
Est-ce qu'il s'agit des mêmes plantes que les lotus, les fameux lotus?
Alors non, mais parce qu'il y a encore des confusions. Il existe un nymphéa lotus, c'est le fameux nénuphar blanc. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a appelé nymphéa lotus? Ben ça, c'est parce que on trouvait que la fleur était peut-être ressemblante à ce qui s'appelle le vrai lotus. Le vrai lotus, c'est le genre Nelumbo lutea. Alors Nelumbo lutea, il est assez rare. Il est d'origine américaine, et Nelumbo nucifera, c'est le vrai lotus asiatique. Alors peut-être qu'on fera une émission un de ces jours sur le lotus, parce que c'est une plante pleine de symboles et extrêmement intéressante, qui a des propriétés tout à fait remarquables aussi, dont on pourra vous parler. C'est une plante très passionnante. Mais donc, encore une fois, les nénuphars, ce sont uniquement les nymphéas.
Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être un mot sur l'origine du nom nénuphar, Patrick, rapidement.
Alors, ça vient peut-être, on dit de l'égyptien nanuphar, qui signifie les belles, les beautés, et parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de ces plantes sur le Nil, et elles étaient sacrées dans l'Égypte ancienne.
Alors, quels sont les points d'intérêt, en fait, quels sont les avantages d'avoir des nénuphars dans les jardins?
Ça fleurit maintenant, enfin, ça va fleurir, oui, fin juin, juillet. C'est une floraison magnifique, souvent très impressionnante. Une fleur qui, chez certains cultivars, fait jusqu'à 30 cm de diamètre. Ça peut être vraiment très, très gros. Avec, pour certains, un parfum magnifique. Et une fleur tout à fait originale, hein, avec ses pétales très étroits, pointus, et qui sont implantés en spirale. Et cette implantation en spirale montre que c'est une fleur très ancienne. Ça fait partie de ce qu'on appelle la forme primitive des angiospermes. Donc la fleur de nénuphar, dans nos régions, elle s'ouvre vers 10h du matin et elle va se refermer vers les 4-5h de l'après-midi, et elle dure une bonne semaine.
Et quand elle est ouverte, elle capte le soleil, c'est ça?
Ah oui, elle attire les insectes.
Hein. D'accord.
Bah oui, parce qu'elle est pollinisée par les insectes. C'est vrai que c'est... Alors, je ne sais pas si on fait du miel de nénuphar, mais en tous les cas, les insectes la visitent vraiment. Alors, il existe aussi des variétés, comme je disais, donc, qui sont d'origine tropicale et qui s'ouvrent dans l'après-midi jusqu'au matin suivant et qui durent moins longtemps, mais qui durent 4 jours. Et ces variétés-là, elles ont la particularité, au lieu d'avoir la fleur posée sur l'eau, comme le nénuphar basique, d'avoir un nénuphar sur tige, donc qui sort très nettement hors de l'eau.
D'accord.
Alors, ce qui est beau aussi chez le nénuphar, c'est la feuille, hein, parce qu'une feuille, quand même, qui peut faire une bonne trentaine de centimètres de diamètre, circulaire, et toujours, ça c'est rigolo, toujours coupée. Il y a toujours une coupure sur la feuille, une petite coupure en échancrure.
On sait pourquoi.
C'est sa forme.
C'est sa forme, tout simplement. Il n'y a pas une raison, enfin, il n'y a pas un besoin particulier d'avoir cette coupure.
Le fait qu'elle soit fendue à la base, je pense que c'est simplement quand elle se déplie au moment de sa sortie, donc elle s'ouvre.
Alors, dans quel type de bassin peut-on cultiver des nénuphars, Patrick?
Alors, le nénuphar ordinaire, celui qui prend à peu près un mètre carré de surface, hein, quand il est bien développé, il lui faut au moins 40 cm d'eau jusqu'à 80 cm. Ça, la profondeur de l'eau est importante, mais il existe des nains. On a fait des hybrides de nénuphars beaucoup plus petits qui, dans 20 cm d'eau seulement, peuvent bien prospérer. Donc, ce qui veut dire que même sur un balcon, dans un bac, alors, des bacs, il y en a tant que vous voulez, parce que tout ce qu'on vend comme pot sans trou, ça sert de bassin formidablement. Donc à partir du moment où il fait 20-25 cm de profondeur, bah un bébé, un mini
en diamètre, il faut qu'il fasse combien?
Oh, bah il faut quand même là qu'il fasse 40-50 cm parce que ça s'étale pas.
Et oui,
mal,
ça s'étale pas mal. Oui. Alors comment plante-t-on un nénuphar dans un bassin?
Alors on peut encore en planter maintenant, d'ailleurs c'est la bonne période. On va les planter dans des paniers. On trouve dans les jardineries des paniers en plastique, donc qui sont en fait simplement des sortes de pots ajourés, vraiment troués de partout, parce qu'il faut bien sûr que l'eau pénètre au niveau des racines. Alors, comment fait-on ? On va mettre une toile de jute tapissée donc sur toute la périphérie intérieure du panier. On utilise une terre lourde. Le nénuphar, ça pousse dans des terres très consistante et riche en humus. On met notre nénuphar, on recouvre donc son rhizome d'environ 3 cm de cette bonne terre, et puis derrière ça, on va placer une couche de gros gravier ou de galets en surface, à la fois pour lester le pot pour qu'il aille jusqu'au fond du bassin, et puis aussi pour empêcher les poissons d'aller grignoter le rhizome, parce qu'il y a certains poissons de bassin qui aiment bien se nourrir un petit peu du rhizome du nénuphar.
On a Daniel sur Direct Studio qui nous pose une question, mais ça va être compliqué d'y répondre, je pense. Il nous dit un nénuphar double de surface tous les jours. C'est vrai ça ou pas ?
Alors, au début de sa croissance, mais oui, pas indéfiniment.
Ah oui, au bout d'un moment, quand il atteint la taille adulte, il ne bouge plus.
C'est vrai qu'au départ de la végétation, oui, on a pratiquement rien, et puis ça pousse. Coup, ça, de toute façon, c'est le propre de pratiquement toutes les plantes aquatiques qui ont une croissance souvent
exponentielle. Ouais. Le bassin, nous dit-il, est totalement couvert en 20 jours. Si on met deux nénuphars dans le bassin, en combien de jours le bassin sera-t-il rempli? Ça va être compliqué, parce que tout dépend de la taille du bassin, non?
Je vous dis qu'en moyenne, planté donc dans son panier, on va dire de 40 cm de côté, un nénuphar va couvrir environ un mètre carré de surface.
D'accord.
Donc, ça vous donne une idée par rapport à la taille de notre bassin. Comme vous le... Alors, généralement, les nénuphars préfèrent être au centre du bassin. Regardez, généralement, vous les voyez, toc, ils sont au milieu.
Ils prennent moins de risques, en fait. Ils savent qu'ils sont bien entourés d'eau.
Bien sûr. Et autre chose importante, de l'eau stagnante. On ne met pas de jets d'eau avec les nénuphars ou de cascades ou de ruisseaux. Non, ça pousse toujours dans des eaux tranquilles, dans des eaux calmes.
Et non traitées, j'imagine.
Bah, vous savez, vous voulez parler de l'eau, mais l'eau de ville, elle est traitée, vous pouvez remplir votre bassin avec.
Ah, bah oui. Ouais, bah d'accord.
De toute façon, le chlore va se précipiter, donc oui.
Quelle exposition est la plus conseillée pour les nénuphars?
Vous l'avez évoqué vous-même, François, hein, plein soleil. Le nénuphar a absolument besoin de lumière pour son développement, donc il faut absolument le mettre au soleil, sinon bah, il va faire des feuilles, mais il ne fleurira pas.
Est-ce qu'il y a des soins particuliers à prévoir pour les nénuphars?
Alors, ce qui est embêtant avec les nénuphars, c'est qu'ils sont souvent attaqués par les pucerons, mais il y a un truc tout bête. Les pucerons de nénuphars ne sont pas des insectes aquatiques. Donc si vous placez une planche ou un balai ou ce que vous voulez sur les feuilles pour les immerger pendant une heure ou deux...
Ça tue les pucerons.
Ils
se noient, voilà. En fait. Donc on est tranquille après. Ils sont ballots, ces pucerons. Hein. Ils auraient pu quand même être apprécier l'eau, quand même.
Alors, ce que disait notre auditeur, je pense que il avait raison en un certain sens, en disant le nénuphar va envahir tout le bassin. Il va envahir tout le bassin, pourquoi? Parce que le rhizome, lui, se développe. C'est-à-dire qu'en fait, vous partez avec un pied, et puis au bout de 2-3 ans, vous en avez 4 ou 5 pieds de nénuphar. Donc c'est ça que ça donne comme impression. Mais au départ, c'est quand même des plantes nouvelles, puisqu'en fait, ils se multiplient. Mais quand on le met dans un panier, en général, il a quand même plus de mal. Donc ça veut dire quand même que pour des plantes qui sont installées dans des bassins naturels, il faut faire une division tous les 3 ou 4 ans, du fait que ce rhizome est assez envahissant. Et puis, en rajeunissant le nénuphar par la division, ben vous allez stimuler la nouvelle floraison.
Est-ce que le nénuphar est utile dans le jardin, Patrick ?
Ben tout à fait, parce que, alors, il y a déjà une chose. Le fait que les feuilles flottent, ça va éviter que l'eau qui se trouve dessous soit très ensoleillée. Quand vous n'avez pas une grosse profondeur de bassin, l'augmentation de la température de l'eau favorise souvent le développement des algues. Donc le nénuphar, lui, en couvrant la surface, limite la prolifération des algues. Après, vous avez aussi ces feuilles qui sont de très très bonnes cachettes pour les poissons du bassin. Parce que souvent, dans les régions, même Île-de-France, il y a des hérons qui viennent vous dévorer complètement toutes les carpes que vous avez dans votre bassin. Donc quand elles sont
sous les nénuphars, le héron, il peut pas faire
le
malin.
Il les voit moins bien. Je dis pas qu'il les voit pas parce que c'est quand même assez malin, mais du moins c'est plus protégé. Et puis encore une fois, par temps chaud, eh bien ça fait une sorte d'abri un peu plus frais pour des poissons qui sont normalement d'eau froide. Quand le bassin est pas trop profond, c'est quand même très très bien. Alors, il faut aussi savoir que c'est naturellement un épurateur d'eau. Et donc, ça absorbe beaucoup les toxines, notamment le mercure, le plomb, etc. Et d'accord. Donc, ça permet d'avoir une filtration naturelle de l'eau.
Bon, est-ce que ça fait pas propager les moustiques aussi ?
Alors, c'est pas le nénuphar qui fait propager les moustiques, c'est l'eau stagnante.
Et exactement. Voilà, c'est ça. Mais on peut avoir un bassin avec des nénuphars et des moustiques.
Et oui. Alors, s'il est très petit, mais s'il est assez grand, vous allez avoir aussi des insectes prédateurs qui vont arriver, c'est-à-dire par exemple des libellules dont les larves dévorent les moustiques.
Ou même vous allez des petits poissons, à mon avis, ça serait une bonne
idée. Alors il y a des petits poissons qui mangent des larves de moustiques, et vous avez aussi les batraciens qui vont arriver comme par enchantement. On ne sait pas d'où ça vient, mais vous avez un bassin dans le jardin.
Vous allez avoir des
petits crapauds. Vous n'achetez pas de grenouilles, mais elles vont arriver.
Et, oui.
Et là, ça mange du moustique.
Bon, alors on parlait de bassin, moi je vous en offre un. Alors ça va être compliqué de faire pousser des nénuphars dans la piscine, mais
oui, parce que là l'eau elle est un peu épurée.
Elle va être un peu traitée.
Oui, quand vous disiez tout à l'heure, est-ce que l'eau traitée, bien sûr, de l'eau de piscine ne
ça marchera pas. Bien sûr, mais pour aucun végétal finalement. oui, je vous offre cette piscine sur RMC, profitez-en, allez-y, jouez avec nous. Une piscine Summer Waves, je vous rappelle, piscine tubulaire rectangulaire de 4 mètres sur 2. Pour tenter votre chance, vous nous envoyez Jardin par SMS au 732-16. Jardin par SMS au 732-16. On vous souhaite bonne chance. On revient dans un instant, Patrick, avec Philippe qui nous attend. Il a un noyer dont les coques noircissent lorsqu'elles arrivent à maturité.
Ah oui, j'ai vu les photos.
Bon, vous avez une petite idée du problème de Philippe. On s'en intéresse dans un instant. Merci d'être là, c'est le jardin. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 7h.
Votre jardin. RMC
jusqu'à 7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Nous voilà de retour. Il est 6h47, c'est RMC. Vous venez d'arriver chez nous. Bon réveil, installez-vous confortablement, le café est prêt, vous écoutez la radio, c'est le jardin jusqu'à 7h avec Patrick Mulan, et tout à l'heure vous retrouverez la maison avec Christian PC et ses invités, puis bien sûr vos questions maison. Patrick, dans quelques instants, ce sera la météo du jardinier. Vous avez scruté les cartes de Météo France pour nous.
C'est l'été.
C'est l'été, ça y est, on y est.
Voilà, oui.
Parfait. Mais auparavant, place à vos questions, et c'est Philippe que nous accueillons.
Oui, bonjour.
Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe, bonjour. Bienvenue.
Bienvenue, on vous écoute.
Voilà, depuis 4 ou 5 ans, j'ai un noyer dans le jardin qui on voit les noix se transformer quand elles arrivent à maturité, c'est-à-dire vers la fin du mois d'août, début septembre, et les noix deviennent noires. Alors, il y a à peu près la moitié des noix qui deviennent noires, et plus ou moins, alors certaines, quand on les cueille, sont comestibles, mais d'autres sont la coque pourrie à l'intérieur.
Voilà. Alors, ce symptôme est assez caractéristique de l'attaque d'une mouche qu'on appelle la mouche du brou de la noix, qui est un ravageur récent, puisqu'il est apparu en France en 2007 seulement. C'est une petite mouche qui vient des États-Unis et qui a été introduite en Europe vers la fin des années 80. C'est un ravageur dont la lutte est obligatoire. Il est inscrit sur ce qu'on appelle les organismes de quarantaine, parce que c'est vraiment un insecte qui fait d'énormes dégâts. Alors, sur un noyer de particulier, c'est pas dramatique en soi, parce que on survivra. Mais pour les producteurs de noix, vous comprenez que récolter des noix telles que celles que vous avez décrites, c'est vraiment
c'est
une
pas possible,
catastrophe.
Bien sûr.
Donc, cet insecte doit être traité, y compris chez les particuliers, parce que si on se dit, bah, après tout, tant pis, je garde, parce que votre noyer, j'ai vu les photos, il est très beau en lui-même, donc ça fait déjà un bel arbre d'ornement, mais il devient un foyer d'infestation potentielle pour l'ensemble des cultures de noix. Donc, il faut savoir que, vu la loi Labbé, dont je parle tout le temps de façon hérissée, je dirais, on n'a plus rien du tout ou quasiment pour soigner nos plantes et nos arbres, du moins au niveau amateur, c'est pas très très commode. Alors, il y a un produit d'origine biologique, puisque il contient du spinosade. Le spinosade étant une toxine insecticide qui est fabriquée par des bactéries et qui est donc autorisée au titre du biocontrôle actuellement, qui est vendu sous le nom commercial de Syneis. Ça s'écrit S-Y-N-E-I-S, comme une sorte d'appât et qui est spécifique pour ce traitement. Donc ce Syneis doit être pulvérisé à grosses gouttes sur la face sud de votre noyer, sur environ 1 mètre carré de plante à 2 mètres de hauteur. C'est très particulier, hein, puisque en fait, après, le traitement qui doit en fait être effectué, on va dire, dans le courant de l'été, avant le mois d'août en tous les cas, et qui peut être renouvelé plusieurs fois, ça dépend le taux d'infestation, doit être réellement fait. Alors, si vous ne vous sentez pas la capacité de le faire vous-même, si vous ne trouvez pas le produit, il faut recourir à un applicateur agréé. Il y a des entreprises paysagistes qui possèdent cet agrément et qui seront capables d'effectuer le traitement pour vous. Mais donc, sachez qu'il est nécessaire et utile et obligatoire d'effectuer le traitement contre la mouche du brou du noyer.
Merci Philippe. Allez, 6h51, la météo du jardinier sur RMC. Patrick, ça y est. Écoutez, aujourd'hui, c'est l'été, officiellement, en ce 20 juin 2020. Hein. Eh bien, l'été arrive aussi dans le ciel.
Oui, on va avoir des vents qui sont pas forcément très, très bien orientés, puisqu'ils vont être plutôt nord-nord-est, mais qui vont apporter un temps sec et surtout, petit à petit, une augmentation très sensible de la température. Puisque demain, on aura une vraie belle journée, peut-être quelques gouttes sur la Normandie ou le Pays Nantais, avec des maximales qui vont être encore très, on va dire, écartées. Puisqu'on aura 16 degrés dans le Pas-de-Calais, c'est quand même un peu frisqué, et on aura déjà 30 degrés à Avignon. Donc dimanche, ça va être plutôt un beau dimanche barbecue, si vous voulez, au jardin, hein, voilà. Quand même. Donc, à partir de lundi, on aura peut-être quelques pluies au lever du jour sur la Champagne, l'Alsace, le Centre, la Bourgogne, etc. Toujours des minimales assez fraîches au matin, parce que dans certaines régions, notamment en Auvergne, on peut avoir un petit 12 degrés seulement, mais ça va monter petit à petit, donc, puisqu'on aura jusqu'à 24 degrés au nord et encore 30 degrés au sud. Donc toujours feu vert pour toutes les actions de jardinage, mais avec priorité, bien sûr, à l'arrosage, surtout dans les régions du sud. Et puis c'est là que ça commence à monter, à monter, à monter, puisqu'à partir de mardi, on aura jusqu'à 29 degrés au niveau de la région parisienne.
Oui.
Plein soleil, il n'y aura plus de nuages. Mercredi, on aura un maximum de 31 degrés à la fois sur le centre et dans notre moitié nord d'Île-de-France. Jeudi et vendredi, on va monter jusqu'à 32, voire 33 degrés à Lyon. Donc,
tout ça, c'est à l'abri.
Oui, ça, c'est les températures données par Météo France. Il peut même localement y avoir plus. Et bien entendu, au soleil, c'est nettement plus élevé. Donc, attention, les végétaux apprécient peu ces énormes chaleurs, notamment tout ce qui est rhododendron, camélia, azalée, pierrie, ça va, toutes les plantes de terre de bruyère, les fougères. Donc, tout ce monde-là, on le douche chaque soir, parce que je vous ai toujours dit, à partir d'une température supérieure à 28 degrés, c'est tous les soirs
qu'on douche.
Il faut doucher. Donc si vous n'êtes pas présent dans le jardin, eh bien, vous mettez un programmateur avec un arroseur oscillant, ouais, de manière à ce que pendant une heure environ, eh bien, il fonctionne tous les soirs. Sinon, il va y avoir des dégâts. Et puis sur les poteries, les potées, eh bien là, il faut arroser tous les jours également. Parce que, évidemment, le volume de terre qu'il y a dans un pot est très nettement inférieur à ce qu'il y a dans la terre et se dessèche rapidement. D'autant plus si vous avez des pots en plastique. Parce que la paroi n'est pas épaisse et donc la chaleur arrive sur les racines et ça dessèche
vraiment.
Donc attention. Alors les bonsaïs, on peut les arroser deux fois par jour.
D'accord.
Une fois le matin.
Est-ce qu'il y a des plantes qui se complaisent dans cette chaleur malgré tout?
Les cactus, les phormiums, enfin tout ce qui est plante d'aspect un peu exotique. Les palmiers, les lauriers roses, tout ce monde-là. Toutes les plantes.
Bougainvillier, tous ces trucs-là.
Ah, bougainvillier, il faut l'arroser. Les bougainvillier, les feuilles sont très très tendres. Alors, bien sûr, il va aimer la chaleur. Un agrume, il faut beaucoup arroser. Un laurier rose, ça tient bien à la sécheresse. Un pittosporum aussi, ça tient bien à la sécheresse. Mais il n'y a pas que ça dans les jardins, malheureusement. Bon, et puis tout ce qui est cordyline aussi, cordyline, phormium, toutes ces plantes à grand feuillage. Les graminées, ça peut tenir aussi bien. Voilà.
Patrick, on termine avec votre coup de cœur de ce samedi. Qu'est-ce que vous avez déniché pour nous?
C'est un gros livre assez original qui s'appelle « Carnet d'un voyageur immobile dans un petit jardin ». C'est de Fred Bernard, c'est chez Albin Michel. Et c'est un livre comme une sorte de carnet de naturaliste qui a regardé des choses dans son jardin. Alors, il y a toutes les saisons, hein. Vous avez les petits oiseaux du printemps, vous avez les insectes de l'été, vous avez les fleurs, les feuilles, et tout ça, c'est écrit comme une bande dessinée. Vous picorez là-dedans, et c'est tout à fait sympa, et je trouve que, oui, l'auteur a vraiment un talent graphique qui est vraiment agréable. Donc voilà, un livre que je recommande pour se faire plaisir ou pour faire plaisir. Tiens, c'est la fête des pères dimanche.
Eh oui.
Vous voyez, alors pas exemple, donc, carnet d'un voyageur immobile dans
c'est
un
demain,
petit
c'est
jardin.
Demain.
Ouais. Oui, dimanche.
Ben voilà, ça peut être un beau cadeau.
Voilà.
Nickel.
Albin Michel, Fred Parfait. Bernard, bravo.
Merci Patrick. Patrick, on se retrouve bien sûr samedi prochain. Et dans un instant sur RMC, on change d'univers après le jardin. C'est la maison. Christian PC, bonjour.
Mais bonjour mon cher François. Bonsoir, bonjour Miu Miu.
Bonjour Christian. Est-ce qu'il faut sortir les billets pour acheter un appartement dans l'ancien?
Ben justement, on va voir si c'est le bon moment, mais on va surtout s'intéresser à l'évolution des demandes des particuliers
suite au confinement.
Ils ont découvert qu'un balcon, ça pouvait servir à autre chose que mettre
le linge à sécher.
Ils ont découvert l'intérêt du jardin.
L'intérêt d'un bureau,
la possibilité de transformer, par exemple, moi, ça a été mon cas, transformer une véranda en lieu de travail, ça peut être extrêmement, extrêmement sympa.
Très bien. Patrick, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr.
Les jardinières, je vous embrasse, ma petite jardinière aussi, ma petite perle qui grandit et qui est géniale. Et je vous dis à la semaine prochaine.
Voilà, et bon séjour dans le pays de la lavande.
Ah oui, on...